decide not to do. Qui pourra me dire quoi faire RD? Je réponds personne si quelqu'un me questionne. Qui pourra me dire comment work sur mes bas? Je shoot dans le sternum, sitôt quelqu'un me sermonne. Depuis 2012, c'est la fin du monde à tous les jours. On travaille trois fois plus fort, mais on met les bouchées doubles. Sur notre propre autoroute, aucun speed limit. Un amour idyllique entre quartier et nous, les 10 petits Chris. C'est mon gang, ce sont mes frères, ce sont mes blood relatives. On va chill day to day, on a décidé de make it. On reste vrai, jamais on pourrait fake it. On reste classique, avec nos style, crispy comme du bacon. Mets un check sur la liste, puis un check dans la malle. Les deux pieds dans la swamp, on était really dans la marbre. Trouver un plan pour s'en sortir, souvenir irremplaçable. On parlait peu au jeu, pronom inemployable. Who's gonna tell me what to do? Who's gonna tell me what not to do? Who's gonna tell me what to do? Who's gonna tell me what not to do? Laissez nos empreintes avec la peinture à l'huile sur les walls. Mettre les points sur les i, un point c'est tout, fuck ceux qui chiolent. Jeunesse antiquoise on the rise. Depuis 2013 on vit la nuit du vendredi matin au jeudi soir. On est drôlement ignorant quand on ferme les yeux. Sérieusement éclairé quand on ouvre un des deux. Pour voir autour de toi que d'autres genres de fucking bars. Faudrait que tout le monde fasse son thing, au pire ce sera pour le mieux. Everybody mérite d'être écouté. Si tu sais pas comment faire, tout le monde peut se débrouiller. Il suffit d'y croire et puis foncer vers le net. Refuser d'y croire que t'es une de leurs marionnettes. C'est fucked up, comment l'humain peut juger l'autre? C'est fou comment on s'ennuie de marée basse quand c'est marée haute. Comme dans la part de l'autre, on se dit tous, imagine que récolter le blé pas juste pour la vitamine.
Tu penses qu'il y a rien de bon qui s'est fait au Québec depuis Men Without Hats? Écoute local, écoute Cheese 94.3.
Gather all the words to sing or be heard, and I won't take it. Will you listen? I'm screaming like a bird, a faraway word. I'm calling to you. Will you take it? It seems so long ago. We were in throes, my hand you were holding. Will you take it again before we go? Before I go.
En septembre 2019, j'étais à Londres. Dans une folle tentative de couvrir le plus de terrain possible, je suis partie à pied de Kensington Gardens, résolue à atteindre les rives de la Tamise avant la noirceur. Un pèlerinage à travers une longue procession de jardins m'amène d'abord au pied d'un grand et rond bâtiment, le Royal Albert Hall. Mais je ne suis pas la seule à regarder. Comme épiée par un mannequin dans un magasin de vêtements, le regard d'une statue me chatouille la nuque. Prince Albert, dans son trône haut de 54 mètres, regarde sa salle de spectacle. Le mémorial est indéniable de grandeur. La personne qui l'a mis là l'estimait profondément. Quelques centaines de pas plus loin, la reine Victoria, elle-même métamorphosée en pierre, n'est pas moins impressionnante. Faisant dos à son palais, elle scrute Londres pendant plus de 100 ans.
Expressed in a manner which cannot be mistaken, that they will uphold the ancient monarchy of England.
Alors, bonjour et bienvenue sur la planète des sages. Vous venez d'entendre un extrait d'un film sur la reine Victoria. Donc, ce matin, je suis en compagnie de Raphaël Laverdière. Salut, Raph.
Salut, salut.
Et François Provost. Salut, François.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Alors.
Je pense pas que. Est-ce que je suis là? Je pense pas que j'ai du son, c'est-tu? Je m'entends pas.
Tu devrais être là normalement. Est-ce qu'on t'entend maintenant?
On essaye. Ah,
bonjour François.
Voilà. Bon, là, j'ai une belle voix.
Yeah. Es-tu content de ce qu'on parle aujourd'hui, François?
Bien, la reine Victoria, je dois avouer qu'au départ, je savais pas trop de quoi qu'on allait parler à partir de la reine Victoria, puisque c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout. Toi, tu la connaissais, j'imagine?
Bien, je pense que je la connaissais comme la majorité des gens la connaissent. Comme j'expliquais là, en début d'émission, moi, je suis tombée devant sa statue, puis j'ai fait « Ah, c'était quelqu'un d'important, apparemment. » Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à pourquoi. Donc, c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui.
Puis, Émilie, il me semble, toi, tu es une grande experte. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là à l'émission. Tu es une experte de la reine Victoria, c'est ça?
Oui, effectivement. J'ai fait mon post-doctorat sur la reine.
T'en es à ton troisième ouvrage.
Exactement. J'ai plusieurs publications à mon nom à propos de cette reine. Non, malheureusement, je ne suis pas tant une grande connaisseuse, mais j'ai quand même une... On en a parlé un peu la semaine dernière. J'ai quand même un certain intérêt pour le passé. Et l'histoire. Donc, je suis très contente qu'on parle de la reine Victoria aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'en apprendre plus, en fait, sur le sujet.
C'est super. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui, qui ne suis pas très beaucoup plus connaissante que vous, mais qui va essayer de vous apprendre quelques trucs à propos de la reine Victoria. Et pour préciser, l'extrait qu'on entendait en entrée d'émission, c'est du film Mrs. Brown, un film qui est sorti en 97 et qui s'intéresse à une partie de la vie de la reine Victoria. Pourquoi ça s'appelle Mrs. Brown? Je ne vous le révèle pas tout de suite. On va le voir un petit peu plus tard.
Ah! J'avais cette question-là, je voulais te la poser, puis là, ça me titille. Là.
Ah ben, ça va continuer de titiller pendant quelques minutes encore.
Ça va être un suspense pendant l'émission.
Yeah, il faut bien qu'on en ait quelques-uns, parce qu'on parle d'histoire quand même, hein? Fait que faut parler à des gens qui connaissent pas ça pour avoir l'air surprenant. Donc, si on commence tout de suite à s'intéresser à la vie de Victoria, commençons avec sa naissance. Elle est née le 24 mai 1819 au palais de Kensington, donc c'est à Londres. Sa mère, la duchesse de Kent, elle s'appelle Marie-Louise Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld, c'est une Allemande. Et son père, un Allemand également, Édouard Auguste de Kent, qui est le... Non, c'est pas un Allemand, je m'excuse, c'est un Anglais. Quatrième fils de George III, donc le roi britannique à l'époque de la conquête de la Nouvelle-France. Le roi fou, aussi dénommé. Et au moment de sa naissance, Victoria est en cinquième position dans l'ordre de succession au trône. Donc, c'est pas trop stressant pour l'instant. Les yeux sont pas encore trop sur elle à ce moment-là. Victoria, elle appartient à la dynastie royale allemande de la maison Hanovre, donc une des plus grandes, plus vieilles maisons royales d'Europe. Et dans sa jeunesse, il y a deux de ses oncles qui vont se succéder sur le trône, donc George IV et ensuite William IV. Et le père de Victoria, il meurt quand elle est très, très jeune. Elle avait seulement 8 mois. Donc, ses oncles sont quand même déjà âgés. Donc, plus le temps avance, plus la perspective qu'elle accède au trône devient plausible. Donc, ça, c'est une des raisons qui explique la rigidité dans laquelle elle a été élevée. Elle n'a pas eu une enfance normale. L'ensemble des règles qui structuraient son quotidien était appelé le système Kensington. Donc, le système Kensington, c'est un système qui avait été élaboré par sa mère et par un des conseillers royaux, un certain John Conroy. Et il est indéniable que ce monsieur-là, Conroy, il cherchait à asseoir son influence sur ce qu'il voyait être la future reine d'Angleterre. Donc, le système Kensington, c'était en fait une manière de la contrôler. Donc, Victoria était tenue isolée des autres enfants de son âge. Toutes ses actions étaient surveillées constamment. Toutes ses relations étaient surveillées. Elle ne pouvait pas visiter qui elle voulait, recevoir qui elle voulait. Et apparemment, elle aurait seulement eu deux compagnons de jeu dans son enfance. Sa demi-sœur, la princesse Féodora de Leningen, qui provient du premier mariage de sa mère, parce que sa mère était mariée avant de marier son père. Et Victoire, qui était la fille de ce même John Conroy, qui avait élaboré le système.
Ça devait être plate, être une jeune reine en devenir, une enfance reclue et isolée du monde extérieur.
Absolument. Imaginez être un enfant dans ce système-là où...
C'est pas le fun d'avoir du sang divin. Hein?
Non,
divin, tabarouette.
Ben, ça vient de là, monarchie, non?
Ouais, ça dépend de ton point de vue. En effet, ça ne devait pas être l'enfance la plus incroyable. Et pourtant, Peut-être à cause de ça, là, c'est vraiment juste une hypothèse, mais Victoria, à partir de quand même, je dis Victoria depuis tantôt, Victoria, à partir d'un âge assez jeune, 13 ans, elle a commencé à tenir un journal. Donc, c'était peut-être une manière d'avoir un espace à elle ou exprimer ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Dans tous les cas, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a accès à une quantité impressionnante d'archives sur sa vie, beaucoup qu'elle a écrit elle-même. Par contre, il faut ajouter à ça une petite nuance. Avant sa mort, elle a fait éditer ses journaux quand même assez. Elle a fait enlever des passages carrément. Il y a des choses qui n'existent plus de ses écrits. Et il y en a plusieurs qui ont été modifiées pour qu'il y ait certaines choses qui ne puissent pas passer à la postérité. On peut comprendre pourquoi. Donc voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup d'écrits sur sa vie qui sont très intéressants. Le 20 juin 1837... Victoria va accéder au trône. En fait,
Je me demandais, elle avait quel âge quand elle accédait au trône?
Elle avait seulement 18 ans. Ça faisait quelques semaines seulement qu'elle venait de fêter son 18e anniversaire.
C'est pas drôle, on va voter pour la première fois à cet âge-là, puis elle est reine.
Exactement.
C'est quand même toute une responsabilité, le plus qu'exercer son droit de vote.
Oui, hein,
un peu plus quand même. Ouais. Légèrement. De l'autre côté de ça. Donc, elle a seulement 18 ans. Quand son oncle, qui était sur le trône à ce moment-là, William IV, décède, donc seulement après son 18e anniversaire, et dans son journal, elle nous a décrit comment elle a appris la nouvelle.
J'ai été réveillée à 6 heures par ma mère qui m'a dit que l'archevêque de Canterbury et Lord Cunningham étaient là et désiraient me voir. Je suis sortie du lit et suis allée au salon, portant seulement ma robe de chambre, seule, et je les ai reçus. Lord Cunningham et Lord Chamberlain m'ont informé que mon pauvre oncle le roi n'était plus et était décédé à 2h12 ce matin et que, conséquemment, j'étais reine.
Oui, on était dans l'ambiance, hein? C'est le fun. On se sentait de haut dignitaire.
Oui, est-ce que vous vous sentiez comme étant aux côtés là, de la jeune reine dans sa robe de chevet échevelée à qui on apprend vous êtes maintenant reine et de voir ces deux grands lords-là s'agenouiller devant vous pour vous baiser la main?
Ça doit être quasiment traumatisant de vivre ça.
Ça doit être quelque chose. Ouais. En même temps, c'était pas une roturière qui est arrivée de nulle part. Elle a quand même été élevée dans la perspective de ça. Donc, apparemment, cette scène-là, c'est elle qui aurait spontanément donné sa main pour qu'il baisse sa main et que là, il se serait agenouillé. Donc, c'était comme un premier geste de royauté, de « je suis la reine, donnez-moi la déférence qu'il me revient ». Donc, dans sa nouvelle position, une de ses premières requêtes, apparemment, ça aurait été d'obtenir une heure seule chaque jour pour elle-même, ce à quoi elle n'avait jamais eu droit dans son enfance. On se rappelle, là, c'était tellement strict. Et maintenant, reine, Victoria va déménager. Est-ce que vous savez où elle va s'installer?
Si je ne me trompe pas, c'est au palais actuel des monarques britanniques, c'est à Buckingham Palace?
Moi, j'allais dire Fort Lauderdale, mais je pense que c'est une meilleure réponse.
Mais quand même, c'était mon second guess.
OK, bon. Ben c'est quoi? Quelle est la réponse?
En fait, elle est allée s'installer à Saint-Éphrem-de-Beauce. Oui, Émilie, tu as tout à fait raison. Buckingham Palace. En fait, Victoria, c'est la première à en faire sa résidence principale. Donc, c'est vraiment ça a toujours été un lieu de résidence pour la famille royale, mais c'est la première qui décide que ça va être son QG, si vous voulez. Donc, depuis cette époque-là, c'est le quartier général de la monarchie britannique et c'est devenu le palais iconique qu'on connaît là, au cœur de Londres. Donc, maintenant, reine, une des autres choses qu'elle fait au début de son règne, ça serait de faire certaines actions pour éloigner sa mère un petit peu. Elle va même lui trouver un endroit où rester en dehors du palais. Elle veut s'éloigner un petit peu de ce contrôle maternel-là. Et elle fait la même chose avec John Conroy. Elle va le bannir de ses appartements royaux. Et cela va sans dire à ce moment-là qu'elle devient très, très puissante. Elle devient la femme la plus riche du monde. Et à ce moment-là, le Parlement britannique va lui verser une rente annuelle de 385 000 pounds, des livres, pardon, et j'ai fait une petite recherche pour vous donner une idée, pour donner une référence de combien ça pourrait valoir aujourd'hui. Donc, 385 000 pounds en 1837, c'est l'équivalent de pouvoir d'achat d'environ 45 millions de pounds aujourd'hui.
Oh!
Donc, c'est encore plus en dollars, là, oui. Si on remet les choses en perspective.
Exactement. On peut faire presque fois deux, là, dépendamment de la fluctuation là, du taux de change.
J'espère que les paradis fiscaux étaient déjà inventés à cette époque-là. Il faut même déposer cet argent-là quelque part.
Ah, ça, je sais pas.
En même temps, je pense que la reine, elle doit être exemptée de payer ses taxes, là, vu que c'est comme elle qui les collecte, non?
Tu me poses des questions fiscales que je ne connais pas, mais en tout cas, on espère que Victoria était généreuse de son argent quand même, de donner des petites côtes d'une fille là, ça fait du bien quand t'as autant d'argent. Sinon, oui. C'est lourd à porter, 45 millions.
Effectivement, il faut que tu te délestes un peu pour ton propre bien-être. Donc, en février 1840, elle va se marier avec son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha.
On peut-tu juste adresser la phrase « elle s'est mariée avec son cousin »
parce que là, il
y a un éléphant dans la pièce. Là. C'est comme ça que ça marchait à l'époque.
Mais on s'entend que ce n'est pas la pire des actions co-sanguines qui a été faite par la royauté dans l'histoire.
Oui, non.
Il y a eu pire que ça.
Oui, c'est en effet très commun à travers les monarchies en Europe de marier ses cousins, ses petits-cousins, parce que l'idée, c'était toujours de conserver le sang royal. Il fallait se marier avec d'autres personnes de haut rang, généralement de sang royal. Là, sinon, c'est vraiment considéré comme un mariage... Tu vois, en fait, c'était même pas permis, c'est même pas accepté. Mm.
Exactement. Un mariage en dehors de ces grandes familles royales-là aurait enlevé de la pureté au sang, au précieux sang, au sang divin, comme disait François tout à l'heure. Donc, mais Victoria, en fait, elle a pas été forcée à proprement parler d'épouser son cousin. Elle est tombée sous son charme, en fait, lors de leur rencontre en Angleterre, seulement un an auparavant, donc en 1839. Et apparemment, c'était un homme d'une grande beauté. Après sa visite, elle a écrit ceci dans son journal.
Albert est extrêmement beau. Ses cheveux sont de même couleur que les miens. Ses yeux sont grands et bleus, et il a un beau nez et une bouche très douce avec de belles dents. Mais le charme de sa contenance est son atout le plus délicieux. Elle était vraiment en amour, donc.
Elle était en amour, effectivement.
C'est beau.
Et si on se fie au premier portrait dans sa jeunesse d'Albert, même plus tard, il n'est pas mort très vieux, c'était un bel homme. Il était beau. Il avait des beaux yeux bleus, c'est vrai.
Ah, c'est beau, les gars aux yeux bleus, hein?
Ben oui.
Je dis ça de même, là. À la radio, c'est moins évident, là, mais en tout cas, okay,
François,
je ne sais pas la couleur de mes yeux.
Je peux plugger la couleur de ses yeux.
En tout cas, le monde devine.
Donc, attends mon amour avec lui, puis c'est une des choses qui va quand même frapper l'imaginaire, puis ça reste encore aujourd'hui. Les mariages royaux, on va se le dire, c'était pas tout le temps des mariages d'amour, c'était pas tout le temps des mariages heureux. Celui-là, apparemment, c'était un mariage d'amour, même passionnel, si on se fie à certains autres passages de ces journaux qu'on vous dit pas aujourd'hui, mais vous pouvez aller fouiller. Il y en a qui sont très délicieux, comme elle aime le dire. Donc, étant donné son statut qui surpasse largement celui d'Albert, ça va être Victoria qui va demander la main d'Albert. Et à l'occasion de la cérémonie de leur mariage, elle va involontairement instaurer une nouvelle tradition. Est-ce que vous savez laquelle?
Non, le mariage médiéval.
Moi, je le sais, mais j'ai l'impression d'être la personne qui a genre toutes les réponses à génie en herbe en ce moment. Donc,
C'est parfait, on va te donner ton trophée après l'émission. Ah,
alors, Amélie, c'est quoi la réponse?
Alors, je dirais, pour 3 points, non, c'est pas... c'est la mode d'avoir une robe de mariée blanche.
Exactement.
Est-ce le cas? Ah!
Exactement. Elle voulait, en fait, mettre en valeur les dentelles blanches de sa robe. Donc, elle s'est dit, on va mettre une robe blanche, pleine de dentelles. Et c'est de là que nous vient la tradition de porter une robe blanche à son mariage, parce qu'à l'époque, avant ça, les femmes portaient ce qu'ils avaient de mieux, leur « Sunday best », comme on dit, à la cérémonie de mariage.
C'est quand même paradoxal, étant donné que Victoria est une des femmes reconnues pour avoir vêtu la robe noire pendant une longue partie de sa vie. Mais
ah,
ça,
on n'est pas rendu, là.
Ah, en tout cas, je vais juste le plugger comme ça. Pourquoi?
Est-ce que tu essaies de nous divulgâcher, François?
Non, je vais créer un autre suspense. Là, on se demande encore c'est pourquoi brown, puis maintenant on se demande pourquoi qu'elle s'habille en noir. Plein de suspense. Ah oui, vas-y, Raph.
Yeah. Okay.
Il faut y aller.
On y arrive. Un petit peu d'action. Quelques mois plus tard, après le mariage, en juin, Victoria va subir une première tentative d'assassinat. Ouh. Et elle va en subir 7 autres pendant sa vie. Elle va survivre à chaque fois. Et elle va montrer une grande contenance après ces événements-là qui sont traumatisants, on va se le dire. Mais elle va être capable de réapparaître tout de suite après en public avec le... Ben, peut-être pas avec le sourire parce qu'elle n'était pas nécessairement connue pour ça, mais avec la contenance et la dignité qu'elle avait habituellement. En novembre de la même année, donc seulement quelques mois après cette première tentative d'assassinat, elle va donner naissance à sa fille qui s'appelle Victoria également. Et au total, elle va avoir 9 enfants en 16 ans avec Albert. Et la gestion diplomatique du mariage de ses nombreux enfants va lui valoir un surnom. Est-ce que vous le connaissez?
Ben moi, je vais me fier à Émilie, là, à la réponse à tout. Fait que je vais faire la même réponse qu'elle.
Ah non, je sais pas la réponse de celui-là.
C'est pas la réponse?
Non, j'ai pas assez étudié pour le test, je pense.
Ah ben ça me fait plaisir de vous dire la réponse. En fait, on la surnomme la grand-mère de l'Europe.
Ah.
Si, fidèles auditeurs, vous avez vu notre petite annonce d'émission qu'on a publiée plus tôt cette semaine, on vous montrait une photo du tsar de Russie Nicolas II et du roi d'Angleterre George V et on essayait de comprendre pourquoi ils se ressemblaient tant. Eh bien, en fait, c'est parce que Victoria a réussi à faire marier ses enfants dans plusieurs familles royales à travers l'Europe et elle est la grand-mère de ces deux hommes-là, du tsar de Russie et du roi d'Angleterre à cette époque-là. Et en plus d'être la grand-mère de William II, qui est l'empereur allemand à la même époque. Et comme on l'annonçait dans notre annonce d'émission, la ressemblance était tellement frappante entre George V et Nicolas II qu'à la mort du tsar de Russie, George V est venu à la cour royale russe et les serviteurs pensaient que le tsar était ressuscité en la personne de George V.
Crime, c'est quand même... ça doit être assez troublant.
Ça doit être très troublant, en effet, oui. Mm. Et malheureusement, parce que c'est quand même des beaux hommes, là, mais malheureusement, Victoria aurait été porteuse du gène hémophile qui aurait affecté 10 de ses descendants masculins.
Ah, fait qu'on voit, ça donne les Rasputin qui rentrent dans l'équation. C'est un autre personnage qu'on parlera peut-être un jour dans l'émission, mais...
Je sais pas s'il y a beaucoup de sagesse, par contre, ouais, Rasputin.
Dans, un restant de temps, peut-être, mais... mais en tout cas, grosso modo, il était là pour être une espèce de médecin étrange là, pour le fils de Nicolas II qui était hémophile. Là.
Exactement.
En tout cas, mais une autre histoire. Mais
le meilleur gars que vous voulez pour soigner vos enfants. Donc, continuons. Victoria avait un amour de l'Écosse. Elle a beaucoup aimé ce pays-là. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez le célèbre château de Balmoral en Écosse. C'est un des préférés de la reine Élisabeth II. Ben, c'est Victoria et Albert qui ont acheté Balmoral à cette époque-là. Et c'est encore aujourd'hui une des résidences privées de la famille royale. Le couple adorait l'Écosse et le pays rappelait beaucoup à Albert son Allemagne natale, surtout les Highlands. Et Victoria, comme on le dit, elle a beaucoup écrit dans sa vie. Elle a écrit un livre, en fait, sur leurs expériences en Écosse. C'est un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle Highland Leaves. C'est à propos de toutes les activités qu'ils pratiquaient dans la liberté de l'espace, de la nature des Highlands, qui était un endroit qui était beaucoup plus intime, beaucoup plus coupé de l'œil du public que Londres. Donc, c'était une des raisons pourquoi elle aimait beaucoup aller se réfugier au nord. Le 23 septembre 1896, Victoria va devenir la monarque de l'histoire anglaise, écossaise ou britannique qui a régné le plus longtemps. Elle va dépasser le record qui était détenu à ce moment-là par son grand-père George III. Et on sait aujourd'hui que son record a été surpassé par Élisabeth II. que ça fait à peu près 100 000 ans qu'il est sur le trône.
100 000
ans. À peu près.
À peu près.
Et en 1897, Victoria, elle n'est pas encore décédée là, mais elle n'est pas loin. Elle va demander que ses funérailles soient militaires, étant donné qu'elle est la chef de l'armée, elle est fille de soldats, et que le blanc domine par rapport au noir. Donc, elle aime créer des modes vestimentaires autour du blanc. Donc, elle va se mourir. En fait, elle va être habillée dans une robe blanche au moment d'être déposée dans son cercueil. Elle va porter également un voile de mariée.
Romantique quand même, cette Victoria.
Oui, on va voir qu'elle avait c'est ça, beaucoup de romantisme en elle. Et ses funérailles, je m'excuse, elle est morte en 1901, donc au tout début du 20e siècle. Et ses funérailles vont être organisées le 2 février dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et après 2 jours d'exposition publique, elle va être inhumée aux côtés de son cher Albert dans la mausolée royale de Frogmore dans le grand parc de Windsor.
Merci beaucoup, Raph. C'est vraiment intéressant comme segment biographique.
C'est clairement, elle a une longue vie, surtout pour l'époque, en plus remplie d'événements quand même. Là, oui. Puis on va pouvoir en discuter un peu plus après la pause qui arrive à grands pas. Mais c'est quand même son règne là, de plus de 60 ans. C'est une période où il y a eu beaucoup de bouleversements, autant sociaux qu'au niveau technologique. Il y a la révolution industrielle qui se passe à cette époque aussi.
En effet.
Donc, on va aller écouter quelques publicités, mais n'oubliez pas qu'au retour de la pause, on va écouter une chanson. Raph, est-ce que tu nous parles un peu de la chanson?
Je peux vous parler un peu de la chanson. La chanson s'appelle « Victoria », comme ça tombe bien, et c'est à propos de la reine Victoria. C'est par un groupe anglais qui s'appelle The Kinks.
Oui, c'est bon ça.
On en a déjà passé à l'émission, vous allez probablement reconnaître. On aime bien les passer à l'émission parce que ça fit drôlement avec nos sujets. Donc, on va pouvoir écouter ça juste après les publicités.
Excellent. Donc, restez à l'écoute de Chiz 94.3. N'oubliez pas, en passant, on va en profiter d'aller liker notre page Facebook. Si ce n'est pas fait, vous pouvez toujours aussi nous écouter sur Spotify et sur le site de Chiz si jamais vous avez manqué l'épisode. Puis, ça ne sera pas bien long. On va aller dans les publicités.
Toutes les cools ont liké notre page. Je veux juste dire ça.
Ouais, c'est un bon argument. Si vous vous sentez pas inclus, allez-y dès maintenant.
N'hésitez pas à commenter aussi. Vous pouvez nous proposer des thèmes d'émission. On prend tout.
Parfait. Donc, on écoute des pubs et on revient.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses?
Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne.
Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Étudiantes et étudiants au DESS, à la maîtrise ou au doctorat, ton association étudiante de campus, l'Allier, tient présentement un référendum portant sur la hausse de sa cotisation. Du 20 au 25 novembre, fais valoir ton droit de vote en tant que membre. Surveille ta boîte courriel Ulaval pour trouver ton lien de vote. Informe-toi au allier.ulaval.ca/référendum et passe le mot.
Cette annonce est payée et autorisée par la direction du référendum de l'Allier.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Such as bad.
D'entendre la chanson Victoria de Kinks, qui est une chanson parue en 1969, donc sur l'album Arthur or The Rise and Fall of the British Empire, qui est un genre de rock opéra sur l'histoire de la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, François.
Mais oui, c'est ça. Voyons, tu ne m'aimes même pas. Ok, c'est bon, je m'entends. Mais ouais, on avait mis cette chanson-là, d'ailleurs, l'année passée. Ben, pas cette chanson-là, pardon. Une chanson de cet album-là là, qui parlait de Winston Churchill, un autre personnage qu'on avait évoqué. Fait que oui, un album concept qui parle d'un petit peu toutes les grandes figures politiques de l'Angleterre. Mm-hmm. C'est bon, cette tune-là.
Grande figure, en effet, Victoria, qui a beaucoup frappé aussi la culture populaire, comme on va le voir, mais qui a beaucoup marqué son époque, qui est l'époque victorienne. Et on va voir que l'époque victorienne, c'est une époque de très grands bouleversements, n'est-ce pas, François?
Mais oui, c'est ça, l'époque. Ben, en fait, Victoria a donné son nom à l'époque. Moi, ça m'a pris du temps avant de faire le lien. Il me semble, l'époque victorienne, j'avais pas catché que ça venait de ça, mais je m'excuse d'être un peu niaiseux. Mais cette époque-là, tu sais, c'est important pour l'Angleterre, mais pour l'Occident en général, parce que c'est l'apogée de la révolution industrielle anglaise et de l'Empire britannique. On se rappelle, si on se met dans le contexte un peu, l'Angleterre est vraiment hégémonique là, parce qu'au début du siècle, au début du 19e siècle, la chute de Napoléon, qui était vraiment, là, on pourrait dire, l'Empire français était comme le plus gros rival de l'Empire britannique là, qui aurait pu faire le poids face à l'Empire britannique. Mais à l'époque victorienne, là, les Anglais, en bon terme de gamers, sont OP, overpowered. Donc, au niveau maritime, industriel, économique, militaire, l'Angleterre est dans une période vraiment un âge d'or. Mais c'est pas nécessairement ce qui est intéressant avec Victoria, c'est que c'est pas une période facile pour elle, malgré tout. Même si son pays est comme trône, puis qu'elle trône le pays qui trône, ben c'est pas facile pour elle, parce que c'est une époque de grands changements auquel il faut qu'elle s'adapte, puis que toute la société anglaise doit s'adapter. Il y a des grandes transformations technologiques, la machine à vapeur, la photographie, l'électricité qui arrive, qui change énormément de choses. Le 19e siècle est tellement plein de révolutions du quotidien. Là, on peut s'en mentionner quelques-uns, on fera jamais un tour exhaustif de tout ce qui s'est passé. Mais juste qu'on y pense au niveau de la science aussi, la science devient une profession, de plus en plus la médecine, on enlève tout le côté religieux, le mysticisme qui essaye de guérir par la foi. On y va vraiment plus avec la science, donc on comprend un peu la microbiologie, on comprend les germes. Donc la médecine devient de plus en plus efficace, il y a toute la notion d'hygiène qui change. Et rallié à l'éducation, l'ingénierie, c'est aussi, on pourrait dire, les infrastructures, tout ce qui est... toutes les infrastructures l'hygiène là, des villes, là, tout ce qui
la
est... Les salubrités, exactement. Toutes ces infrastructures-là, se développent et sont nécessaires parce que avec l'industrialisation, c'est aussi l'urbanisation à grande, grande échelle. Tout le monde sort des campagnes, s'en va travailler dans les usines. Donc, beaucoup, beaucoup de gens réunis dans un même espace. Donc, mais heureusement, l'hygiène se développe pour qu'on ne se ramasse pas avec une peste noire numéro 2. Et avec l'industrialisation aussi, c'est une nouvelle capacité de production de masse, de consommation de masse, parce qu'on produit beaucoup, puis il faut des gens pour acheter ces choses-là. Puis ça tombe bien, il y a de plus en plus d'ouvriers qui peuvent payer des choses.
En effet, ça fait beaucoup de gens qui ont besoin de manger et de consommer pour pouvoir travailler, pour... Donc, ça fait rouler la consommation.
Oui, puis c'est intéressant parce que juste, admettons, c'est un pouvoir économique de plus du citoyen anglais régulier. Mais c'est pas juste le pouvoir économique qui grandit pour le citoyen anglais, c'est aussi le pouvoir politique parce que Victoria s'inscrit dans le mouvement historique du développement de la démocratie de masse. Tu sais, c'est tous les citoyens qui peuvent voter. Ça avait déjà débuté avant Victoria, mais elle s'inscrit dans ce courant-là d'une monarchie qui est plus absolue. Là. C'est pas le monarque qui décide de tout, comme à l'époque féodale, mais c'est rendu une monarchie constitutionnelle. Donc, la constitution limite les pouvoirs du roi ou de la reine. Le pouvoir exécutif est relégué au Parlement et aux partis politiques qui sont élus par la démocratie, par les citoyens. À l'époque de Victoria, je serais intéressé, je ne crois pas que les femmes avaient le droit de vote, par contre. Ça serait intéressant de je ne suis pas totalement sûr, mais si on se fie du moins à l'homologue au Canada, on le sait que c'est beaucoup plus tard que l'époque victorienne. Et c'est intéressant, je fais le parallèle avec le Canada parce que nous sommes encore au Canada, techniquement, dans une monarchie constitutionnelle, parce qu'on a la même... on est encore sous l'égide de la reine Élisabeth II, qui est là depuis 10 000 ans.
Oui, bien, effectivement, la reine Victoria était également la reine du Canada à l'époque où elle était sur le trône.
Pour la question du droit de vote, apparemment, le droit de vote pour les femmes britanniques à partir de 30 ans, donc pas plus jeune qu'il y a 30 ans, ça va en 1918, donc quand même
beaucoup
17 ans
tard.
Après la mort de Victoria.
Et c'est un autre élément qui est vraiment fascinant puis paradoxal, c'est que Victoria n'aurait pas le droit de vote quand on y pense, mais c'est la reine de son pays. C'est un des éléments vraiment...
Intersectionnalité.
c'est fascinant quand on y pense que justement à cette époque-là, ben le statut de la femme est encore vue comme n'est pas l'équivalent de l'homme. Et c'est... Je serais intéressé à entendre l'argumentaire de l'époque de pourquoi une femme pourrait être notre reine et qu'elle nous gouverne, mais qu'elle n'a pas le droit de vote.
C'est... Justement, par rapport à ça, dans un de ses journaux, elle aurait écrit quelque chose du genre de « plus le temps passe, les jours passent, et je me rends compte que le rôle qui est attendu des femmes, d'être douce, d'être conciliante, tout ça, ça ne marche pas avec le fait de régner, avec le fait d'être monarque. Donc, les femmes ne peuvent pas être monarques à cause de ça. » Elle-même le disait.
Mais encore aujourd'hui, c'est une façon de voir qui persiste. Parfois, on voit ça encore. Il y a des personnes qui pensent que pour régner, là, on peut pas côtoyer le fait de mettons de régner de façon autoritaire ne fonctionne pas avec l'idée d'être bienveillante puis
d'être
vouloir
humain.
Exactement, en tout cas moi je ne suis pas de cette perspective là, mais il y a encore des gens qui pensent que ça ne se côtoie pas ces choses là et ce qui est intéressant avec tous ces mouvements sociaux là dans lesquels Victoria inscrit est une manifestation d'eux également, c'est que elle ne en tant que monarque qui a moins de pouvoir sur ce qui se passe, c'est plus comme à l'époque féodale où le monarque pouvait être un réel moteur de changement. Victoria, elle, assiste au progrès, elle en fait partie parce qu'elle l'accepte, elle se réinvente avec le progrès, mais...
Le progrès ne transite plus par elle.
Exactement, elle voit l'histoire en marche et elle s'adapte et on peut se dire que ça aurait pu être autrement. Il y a certains monarques, on le sait, que par exemple en France, des rois qui ont leur quête de pouvoir leur ont fait perdre la tête.
Oh.
Ça va t'aller dedans, mais...
Habile,
n'est-ce pas? Mais donc, des gens qui n'ont pas voulu justement reléguer le pouvoir à la population et qui finalement, ça les a conduits à leur perte. Mais Victoria s'est toujours adaptée et s'est réinventée, a réinventé vraiment le rôle de roi et de reine. Je trouvais ça intéressant, Raph, parce que toi, c'est à partir du médium c'est à partir de l'image que toi, tu voyais qu'elle avait aussi révolutionné le rôle de roi.
Quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant, justement, de l'époque victorienne, c'est qu'on assiste au développement de la photographie. Donc, Victoria, ça va être la première femme au monde à vivre une vie publique sous la lentille des caméras. Je dis la première femme au monde, la première monarque aussi également qui va avoir à œuvrer à travers tout ça, à manœuvrer à travers tout ça. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie être photographiée pour la royauté? Qu'est-ce que la royauté fait de sa propre image? Qu'est-ce que ça crée comme symbole? Donc, d'abord, la première photographie qui a été prise dans le monde, apparemment, elle aurait été prise en 1826. Donc, on est dans cette époque-là, juste avant le début de son règne, par Joseph Nicéphore Niépce. Et la photo s'appelle « Point de vue du gras ». Donc, on n'est pas en train de parler de l'opinion d'une matière adipeuse. Le gras, c'était en fait le domaine dans lequel Nicéphore Niépce vivait en France. Donc ça serait notre plus récente, notre plus vieille photo en 1826. Dans les premières photos de la reine Victoria, apparemment le premier photographe, ça aurait été Henry Collin qui aurait pris sa photo autour de 1844. Donc, dans les premières photos de Victoria, il y aurait eu des photos de recréation du mariage d'elle et Albert, donc 14 ans après leur mariage. Et à partir de ce moment-là, ils vont se mettre à commissionner des photographes pour avoir des photos pour former leurs propres albums de famille, leurs propres albums personnels. Donc, ils commençaient déjà à avoir l'attrait de ça, même pour eux-mêmes, dans leur vie personnelle. Et ils vont être photographiés pendant plusieurs années. Et ils vont acquérir une certaine expérience de ce que c'est que de façonner une image pour une photo pour faire passer certains messages.
Sont des précurseurs des relations publiques, quand on y pense, là, d'essayer de créer une espèce de mise en scène pour
absolument,
la photo.
Absolument, absolument. Puis quelque chose qui illustre très bien ce que tu viens de dire, c'est en 1860, il va y avoir la publication, la distribution de ce qu'on appelle les cartes de visite. Donc, c'était des photos qui étaient prises de la famille royale pour distribuer au public, pour les vendre au public. Donc ça a vraiment fait une révolution. Donc, on voyait la reine dans des habits modestes. Elle était montrée en tant que mère, en tant qu'épouse, avec un enfant sur les genoux, dans une attitude relaxée. Donc, ça a vraiment changé la vision du peuple, la relation entre la reine et son peuple, parce que l'apparence de la royauté, avant ça, était seulement connue par les tableaux, par les gravures, mais maintenant, c'était possible d'acheter la photo de la reine et l'avoir dans sa maison. Donc, c'est dur de se remettre dans cette époque-là, mais c'était vraiment quelque chose de très... c'est un gros, gros changement, une grosse transformation pour l'époque. Donc, au même moment, on a d'autres cartes de visite qui vont être mises en vente, d'autres membres de la royauté, des politiciens, des écrivains, musiciens, acteurs. Et il y a une folie de la collection qui s'est développée autour de ces cartes de visite-là qu'on appelle la cartomanie. Et à partir de ce moment-là, la demande du public pour avoir d'autres images de la famille royale va s'accentuer.
C'est comme un peu l'ancêtre là, des revues à potins sur les membres des familles royales. Là, c'est comme encore super populaire. Il y a plusieurs magazines qui sont consacrés uniquement à des photos de la famille royale. C'est quand même un phénomène assez spécial, je trouve.
Exactement. Puis le Royaume-Uni a vraiment une culture des tabloïds très développée, si on peut dire. On pourrait penser que les premiers simili-tabloïds viennent de là. Donc, il va y avoir d'autres séries de cartes de visite. Et ces photos-là vont marquer le début de la culture de la photo de célébrité, comme on vient de le mentionner. Les femmes vont tenter de copier le style de Victoria. Les hommes vont tenter de copier la moustache, les cheveux d'Albert. Donc voilà, on
c'est comme des influenceurs, dans le fond.
Exact. Exactement. Donc, en 1861, on estime qu'environ 300 millions de cartes de visite auraient été vendues seulement en Angleterre. 1861, c'est l'année de la mort d'Albert. On pourrait penser que ça a peut-être un lien avec ça. Les grands moments dans les vies de la famille royale ont vraiment marqué des fluctuations par rapport à la demande pour avoir des photographies. Et l'album, si ça vous intéresse, était vendu à ce moment-là à environ 4 livres, 4 shillings. C'était très cher pour l'époque. Pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, là, c'était vraiment très cher.
Mais il fallait bien que la reine fasse un peu d'argent. Mais parce oui, qu'on la pauvre elle. La pauvre elle. Elle avait juste 45 millions de livres là, à un moment donné. Ça fait pas grand-chose avec ça. Là.
Et puis plusieurs maisons avec des serviteurs, puis plein de services fournis. Ouais. Ça aussi, c'est pas facile.
Pas drôle comme
ouais,
vie,
c'est ça.
Donc, apparemment, la photo qui se serait la mieux vendue dans cette période-là, c'était un portrait qui était très inhabituel, même pas de Victoria. En 1867, la princesse de Galles avec sa fille Louise portée sur son dos, donc piggyback un peu. Là. Donc, cette carte de visite-là, c'est une photo bizarre là, quand on y pense. Là, ça fait pas du tout royal, ça fait pas du tout digne, mais c'était conçu pour montrer au public une jeune princesse moderne, en bonne santé, suite à la maladie, à la naissance de son enfant. On voulait montrer qu'elle était revenue d'aplomb, puis qu'elle était une mère, elle était quelqu'un à qui s'identifier. Donc, on voit que la société est en changement. Le rapport doit changer par rapport à la famille royale et le public. Ça doit évoluer parce que les grands changements sont là. Il faut embarquer dans les grands changements pour pouvoir survivre. Et la famille royale l'a compris. Elle essaie de se montrer plus humaine, plus approchable. Et ça va marcher. La popularité de la famille royale va beaucoup augmenter grâce à ces cartes de visite-là. Et la reine elle-même va utiliser la photo pour fortifier son image royale avec un premier portrait royal qui va être pris en 1861 par un monsieur Clifford.
C'est quand même un changement de paradigme très intense parce qu'on faisait des jokes avec le droit divin tout à l'heure, mais quand on y pense, puis surtout en général avec la figure du roi, de la reine, les monarques... Quand c'est enraciné convenablement, ben en fait, profondément dans la religion, ben c'est réfléchi comme tel à l'époque où, que, effectivement, le roi, la reine sont plus que des humains ordinaires. Mm. Donc, ensuite, de se montrer comme étant des humains ordinaires, ce qu'elle n'était quand même pas, parce que, tu sais, pas tout le monde est une reine, mais c'est quand même un changement de paradigme là, quand on y pense, là, parce qu'un siècle plus tôt, peut-être que de dire on va essayer de se montrer comme le people, là, d'être plus populiste, ça a été, mais voyons, tu t'es un descendant de Dieu, tu peux pas faire ça, tu peux pas te mettre au pied d'égalité.
Tu brises le symbole.
Exactement. Donc, puis là, la photographie qui est là pour montrer ça, tu sais, c'est une figure que le monde ne voyait jamais avant. Là. Mm. À un moment donné, la photo,
elle existe
par tous. Ça a dû changer, bouleverser la vision de la monarchie à cette époque-là.
Absolument. Donc, environ un mois après le portrait royal dont je vous parlais, Albert va décéder, donc à seulement 41 ans. Et on en a parlé très brièvement, mais un des faits connus qui a beaucoup frappé l'imaginaire collectif à propos de la reine Victoria, c'est qu'elle a porté le noir pour signifier son deuil le reste de sa vie après ça. Donc, pendant une quarantaine d'années après la mort d'Albert, elle a porté des habits noirs, avec quelques petites exceptions dont je vais pouvoir vous parler. Et la photographie a été un outil pour elle dans son deuil. Par exemple, elle a voulu photographier le lit où Albert était mort. Et la photographie, pour elle, c'était une manière de conserver les choses telles quelles, sans altération. Et savez-vous ce qu'elle a dit aux serviteurs d'Albert après sa mort?
Mais comme précisément? Ben,
sad, bro, je sais pas.
En fait, elle leur a demandé de faire quelque chose par rapport aux objets d'Albert puis aux activités.
Oui, j'essaie.
Oui, vas-y.
C'est...
J'essayais de te rendre là.
OK, non, ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'elle a demandé aux domestiques de faire comme s'il n'était pas mort, dans le fond. Fait que tous les matins, sortir ses vêtements, préparer son petit bol pour se laver laver le visage avec de l'eau fraîche à tous les jours, mettre la table comme s'il était là, vraiment comme continuer à faire comme s'il était toujours en vie, ce qui est quand même un peu étrange quand même.
C'est totalement
bizarre. C'est une étrange façon de vivre son deuil. Là.
Ouais. En tout cas, on peut constater qu'elle était très triste, c'était très bouleversant pour elle, elle aimait beaucoup son Albert, et les années qui vont suivre vont montrer des photos de Victoria dans un état profond de deuil. Elle n'est pas du tout enjouée. Et notamment, fait intéressant, elle insiste pour se faire photographier le regard tourné vers un buste d'Albert. Donc, il y a une photo qu'ils ont fait prendre à l'occasion du mariage de son fils, Albert-Édouard. Donc, imaginez la scène. On a la nouvelle femme d'Albert-Édouard dans sa robe de mariée. On a Albert-Édouard debout à côté. Entre les deux, on a Victoria, habillée toute en noir, qui regarde une statue avec un air complètement triste. C'était la photo de mariage.
Waouh, c'est ça fait des beaux souvenirs là, du plus beau jour de ta vie.
Exactement. Donc, dans les années 1860, après la mort de Victoria, pas la mort de Victoria, la mort d'Albert, je m'excuse, je saute des étapes, elle va contrôler de plus en plus la manière dont elle va être photographiée. Donc, elle va vraiment choisir la mise en scène dans laquelle la photo est prise. Elle va composer des images pour montrer vraiment la profondeur de son deuil. Puis, apparemment, elle aurait utilisé ces photographies-là pour, en quelque sorte, justifier son absence de la vie publique, parce qu'à ce moment-là, elle se montre presque plus. Le public est très mécontent de son absence et la monarchie subissait une baisse importante de popularité.
Et ça m'a vraiment fasciné, parce que à travers les recherches que je faisais sur la reine Victoria, tu le soulignais, le public était mécontent. Il y avait cette notion-là, le public a le droit de voir la reine.
Oui.
Et ça, cette manière de penser-là de « je dois voir la reine », moi, ça m'intriguait. Je me disais, mais quel type de fascination la famille royale a pour le public, pour qu'eux autres ils sentent un besoin de voir ce personnage-là. C'est assez fascinant.
Mm-hmm.
Puis quand on regarde le rôle symbolique que le roi puis la reine exercent encore aujourd'hui, c'est qui va au-delà de la simple gouvernance. Ça explique peut-être en partie cette fascination-là.
Exactement. Au-delà d'un monarque ou d'un pouvoir symbolique, c'est une image qu'on veut voir. On veut voir le plus qu'on peut pour essayer de saisir qu'est-ce qui fait la magie, qu'est-ce qui fait l'attraction de ces gens-là, en fait.
Mmh, oui, exactement.
Donc, en 1863, il va y avoir une nouvelle personne qui apparaît dans ses photos. Et là, je vais répondre à une de vos interrogations d'un début d'émission. Un certain John Brown, c'est un Écossais qui était chargé de l'amener en cheval lors de ses sorties. Et elle va beaucoup s'attacher à lui. Ça va s'amener, elle va se mériter la réprobation de beaucoup de gens à cause de ça, parce que clairement, elle a un parti pris pour lui. D'où le titre de Mrs. Brown du film dont on vous parlait tout à l'heure, où Judi Dench va jouer une reine Victoria qui est profondément éprise de Brown, ce qui va choquer la cour et les membres du Parlement. Donc, elle va devenir impératrice des Indes en 1876. Elle fait prendre une photo impériale et c'est une des photos qui nous reste de Victoria avec un sourire, en fait, une absence de sourire, un visage très austère, très, très royal, très digne. Apparemment, elle n'aurait pas nécessairement été comme ça. Ça aurait été quelqu'un qui aimait beaucoup rire. On a une ou deux photos d'elle avec un sourire dans le visage. Et ça a été, encore une fois, utilisé pour s'amener l'approbation du public, ce qui a fonctionné.
Mais je pense qu'il y a un aspect technique aussi, là, parce qu'à l'époque, la photographie n'était pas assez avancée pour que les gens sourient en général. Tu ne peux pas demander aux gens de garder un sourire trop longtemps, parce que c'était trop long de prendre la photo. Fait que c'était plus simple que tu souris pas, puis à un moment donné...
Exactement.
Ça, il fallait poser longtemps, en fait, rester immobile pendant très longtemps pour que la photo soit pas floue. C'était pas juste comme clic et c'est fini.
Exactement. Okay.
Pas comme aujourd'hui où on peut prendre des 1000 photos, genre là, tout de suite.
Effectivement. Mm. La folie du selfie, je pense que ça marchait pas trop à l'époque de la reine Victoria.
Elle aurait aimé ça, par exemple. Je suis sûr qu'elle aurait été bonne sur Instagram.
Donc, on voit qu'elle a vraiment utilisé son image pour créer un symbole, pour renforcer son image, pour aussi faire passer toutes sortes de messages à travers sa vie pour montrer « là, dérangez-moi pas, je suis en deuil. Là, c'est correct, je suis revenue sur la scène publique. » Vraiment, là, pour contrôler ce que le public pensait d'elle, son approbation, tout ça. Donc, est-ce que vous pensez que cultiver une image plus humaine de la monarchie, ça contribue à fragiliser la mystique de la royauté? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut faire pour la conserver?
Ben, c'est étrange parce que comme on en parlait, comme tu le mentionnais, Milly, encore aujourd'hui, il y a des magazines totalement consacrés à la famille royale. C'est comme si, même si la personne en tant que telle était devenue plus humaine, la fascination reste. Il y a comme l'image d'être un roi ou une reine fait en sorte que t'es flyé, t'sais, on veut savoir t'es qui, là. T'es-tu vraiment...
On veut te comprendre, ouais, on veut comprendre d'où vient la magie là, qui est ton aura autour de toi.
Mais je pense que ça vient du fait qu'aujourd'hui, encore plus dans notre monde actuel, les souverains ont vraiment un rôle très symbolique et peu concret, finalement. Donc, je pense que cette idée de l'image, on l'entretient, puis on l'aime ou on veut savoir ce qui se passe dans leur vie, tout ça, c'est entretenu aussi par le fait que il y a des gens qui se demandent un peu à quoi ça sert qu'il y ait encore des monarques en Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc, c'est une question qu'on peut se poser, évidemment. Je n'ai pas la réponse pour vous, malheureusement.
Ça fait des magazines, mais... mais en tout cas, ce sera peut-être moi, j'ai une petite théorie psychanalytique là-dessus un jour, là, qu'à une autre émission, je vous proposerai, qui sait. On n'a pas le temps, là.
Effectivement, ça a passé très vite comme émission et on est déjà rendu à la fin. Raph, est-ce que tu avais quelques mots pour conclure? Qu'est-ce que Victoria nous laisse?
Oui, bien, Victoria nous laisse beaucoup de choses. Elle nous laisse l'image d'une femme forte qui a passé à travers de beaucoup de changements, beaucoup d'épreuves, d'une personne humaine aussi, là, qui a voulu le montrer ou le cacher à certains moments de sa vie, qui a su utiliser son image pour arriver à ses fins, mais qui était profondément vulnérable, en fait, comme personne.
Ouais, ben merci beaucoup, Raph, pour cette belle conclusion. Merci à toi aussi, François, pour l'épisode de cette semaine. Est-ce que la semaine prochaine, est-ce que vous savez de qui on parle?
Oui, là, cette fois, c'est moi qui ai la réponse. Là. Je me ferai pas blanchir. On parlait de Louise Latraverse, mais on va parler avec quelqu'un, puis ça, je vais sur toi qui en parle, Milly. Avec qui on va parler?
Effectivement, on a une invitée spéciale la semaine prochaine. Il s'agit de Béatrice Germain, qui va venir nous parler là, de cette femme de théâtre. Donc, soyez avec nous la semaine prochaine, jeudi 11h, comme toutes les semaines, sur les ondes de Chiz 94.3. On souhaite une belle fin de journée là-dessus.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonjour à toute la communauté étudiante. Je vous invite à suivre la page Facebook Bâtir pour l'avenir pour la hausse de la cotisation CADEL qui vous permettra de rester informé de toutes les activités du comité en faveur de la hausse au référendum des étudiants du premier cycle. Je vous informe également que nous ferons la tournée des pavillons du 17 au 25 novembre et que toute hausse adoptée lors du référendum mettra sur pied un grand projet de logement par les étudiants pour les étudiants à proximité du campus. Au plaisir de vous y voir.
Réveilleurs and child, boisé sur le slide, la musique est zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog n'aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Sur l'écorce de nos corps.
branches du bouleau. Le ciel est brume de nos silences. L'aube à l'horizon. Nos corps se